Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous de chaque jour sur Radio Vatican. Des laïcs, hommes et femmes ont reçu les ministères de lectorat et de catéchistes dimanche au cours de la messe célébrée par le pape François. Des détails, c'est dans cette édition juste avant la rétrospective de l'actualité de l'Église en Afrique. En actualité sociopolitique, des soldats se sont mutinés dimanche dans plusieurs casernes du Burkina Faso pour réclamer le départ des chefs de l'armée. Installez-vous bien, les détails, c'est dans cette édition que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, Français Afrique, Donatien Niembo.
Le pape François a présidé la messe du dimanche de la parole des dieux en la basilique Saint-Pierre de Rome. Au cours de cette messe, le pape a conféré les ministères de lectorat et de catéchiste à des laïcs, hommes et femmes venus des cinq continents. Dans son homélie, François a encouragé les croyants à une plus grande familiarité avec les Écritures. Des détails de Claire Riobé.
La parola svela Dio e l'altro aspetto la parola ci porta all'uomo.
C'est à travers les Écritures saintes que nous pouvons découvrir quel est le vrai visage de Dieu. Il n'est pas un observateur froid, détaché et impassible, mais le Dieu avec nous qui se passionne pour notre vie et s'implique jusqu'à pleurer de nos larmes, explique François. En nous racontant l'histoire de l'amour de Dieu pour l'humanité, la parole de Dieu nous libère également des peurs et des idées préconçues au sujet de Dieu qui peuvent parfois éteindre la joie de notre foi. Alors, questionne le Saint-Père, frères et sœurs, demandons-nous, portons-nous dans notre cœur cette image libératrice de Dieu, ou bien le considérons-nous comme un juge rigoureux de notre vie?
Portiamo dentro al cuore questa immagine liberante di Dio, il Dio vicino, il Dio compassionevole, il Dio tenero.
La parole de Dieu ensuite doit aussi nous pousser à sortir de nous-mêmes pour aller à la rencontre de nos frères et sœurs. François met en garde contre les tentations de rigidité et de pélagianisme au sein de l'Église. Car la parole de Dieu est incarnée, elle ne fait jamais abstraction de la vie, mais nous situe dans la vie, à l'écoute du cri des pauvres, des violences et des injustices qui blessent la société et la planète. Alors, a demandé le Saint-Père, laissons-nous pénétrer par la parole, soyons des passionnés par l'Écriture sainte. Remettons la parole de Dieu au centre de la pastorale et de la vie de l'Église. Écoutons-la, prions-la et mettons-la en pratique.
Claire Riobé. Et comme à l'accoutumée dimanche à midi, François a présidé la prière mariale de l'Angélus devant des nombreux fidèles réunis sur la place Saint-Pierre du Vatican. L'évêque de Rome a saisi cette opportunité pour rappeler aux fidèles la nécessité de se familiariser avec la lecture de la parole des dieux. À présent, faisons un retour sur l'actualité qui a dominé l'Église en Afrique au cours de la semaine. Africa, allons tout d'abord au Cameroun, où Paul Valéry Mendogo, notre correspondante locale, nous avait fait part de la clôture des travaux du 45e séminaire annuel des évêques de ce pays.
Les évêques du Cameroun ont décidé que l'application de la nouvelle traduction du missel romain en français sera effective dans tous les diocèses du pays dès le 29 juin 2022 en la solennité des saints apôtres Pierre et Paul. Les évêques ont également choisi le diocèse d'Ebolova pour organiser et abriter la célébration des journées nationales des jeunes qui auront lieu du 2 au 7 août 2022. Dans ses allocutions, le président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, Mgr Abraham Comé, a déploré la misère dans laquelle vivent les populations et il a dénoncé les crises continues dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord Cameroun. Mgr Comé a donc appelé les fidèles à intensifier leurs prières pour la cessation des violences et l'avènement de la paix. En outre, à ce sujet, les évêques du Cameroun ont choisi le 24 avril 2022, dimanche, de la miséricorde comme journée de pèlerinage national pour la paix et le renouvellement de la consécration du Cameroun à la Bienheureuse Vierge Marie à Marienberg dans le diocèse d'Edea. Les évêques n'ont pas manqué de s'intéresser au grand rendez-vous du football africain qui se tient au Cameroun depuis quelques jours. Ils souhaitent que cette Coupe d'Afrique des Nations soit une occasion propice pour la jeunesse de vivre plus intensément la fraternité et la solidarité. Paul Valéry Mendogo, DDA, pour Radio Vatican.
et les évêques de la conférence épiscopale Burkina-Niger avaient tenu leur assemblée plénière ordinaire consacrée au séminaire. Retour sur ce reportage de Paul Da.
La conférence épiscopale Burkina-Niger a tenu sa première assemblée plénière ordinaire de l'année 2022 au grand séminaire Saint-Pierre Claver de Koumi. Cette assemblée du mois de janvier, faut-il le rappeler, est traditionnellement consacrée à la vie des séminaires et d'autres institutions de la conférence épiscopale. Plusieurs échanges et sessions de travail ont conduit à des décisions et recommandations pour la bonne marche de ces maisons de formation qui, du reste, ont été félicitées par le vice-président de la conférence épiscopale Burkina-Niger, Monseigneur Gabriel Sayaogo, archevêque métropolitain de Koupéla, qui a dirigé les travaux de cette assemblée en l'absence du président de la conférence pour raison de santé.
Je voudrais réitérer mes félicitations aux recteurs pour la clarté de leur rapport, quand bien même des perfections sont encore possibles. Les mêmes félicitations à leurs économes pour la clarté des bilans financiers. En plus de cette clarté, aucune de nos maisons n'a terminé l'année avec un déficit.
Après ces félicitations, Mgr Gabriel a terminé son mot de clôture par cette invitation aux recteurs.
Tout en reconnaissant que certaines décisions de l'autorité sont difficiles dans leur application en fonction du contexte actuel et général, nous invitons les recteurs à demeurer autant que possible en syntonie avec les évêques dans le but de sauvegarder l'unité de décision et d'action dans la formation des candidats au ministère sacerdotal.
Paul Dawagadou pour Radio Vatican.
En Côte d'Ivoire, le personnel de l'éducation catholique avait lancé sa mutuelle sociale à l'initiative de la conférence épiscopale ivoirienne. Le récit est de Marcel Aristonblé.
Désormais, le personnel de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire pourra bénéficier des soins de qualité, mais également de nombreuses prestations sociales qui sont un droit fondamental du salarié, a fait savoir le père Augustin Niaké, premier vice-président du conseil d'administration de la dite mutuelle, à l'entame de cette cérémonie. Représentant Monseigneur Gaspard Bébé Nieba, évêque de Mans, président de la commission épiscopale pour l'éducation catholique, le père Emmanuel Oyina, secrétaire général de la conférence épiscopale ivoirienne, a souhaité qu'elle soit un instrument efficace de développement et de promotion de l'action sociale en faveur de tous les acteurs de cet ordre d'enseignement.
Elle devra d'une part contribuer à l'amélioration de l'état de santé des personnels de l'éducation catholique pour mettre en valeur le développement humain intégral au moyen de la solidarité et de l'entraide, de promouvoir le développement durable et d'autre part favoriser l'implication des mutualistes dans la création de richesses humaines, économiques et financières.
Assurant la vice-présidence de la Commission épiscopale pour l'éducation catholique de Côte d'Ivoire, Monseigneur Raymond Awa, évêque des Mans, quant à lui, s'est réjoui de cette avancée significative.
Le système éducatif catholique prend soin du personnel. On attendait depuis longtemps ces conditions de vie et de travail. Aujourd'hui, ces choses faites, on ne peut que rendre grâce à Dieu et encourager tout le monde à participer à cet organe-là.
Marcel Ariston Blé, Grand Bassam, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Direction Togo, le vicariat épiscopal chargé du laïcat dans les diocèses des Anéo avait organisé une rencontre de formation du laïcat. Nous en reparlons avec Gustave Ouam.
Ce samedi 15 janvier 2022, le vicariat épiscopal chargé du laïcat dans le diocèse d'Anéo et la direction diocésaine des œuvres ont organisé une formation pour les membres des conseils pastoraux paroissiaux, les membres des conseils pastoraux pour les affaires économiques, les responsables des mouvements, chorales et associations de ce diocèse. La rencontre tenue au centre d'animation missionnaire du diocèse à Vaugan a eu pour thème « Organisation hiérarchique de l'Église ». Le révérend père Sébastien Atiogbe, chancelier du diocèse, a assuré la formation. Il nous livre l'essentiel de son enseignement.
Il a été question de la constitution hiérarchique de l'Église. Nous avons d'abord essayé de découvrir l'organisation interne de la Cité du Vatican avec l'autorité suprême de l'Église qui est constituée de deux pôles, le pontife romain et le collège des évêques, et avec la curie romaine et les dicastères qui la composent. Ensuite, nous avons considéré la communion entre le Saint-Siège et les églises particulières, la communion entre les églises particulières elles-mêmes, et nous avons enfin abordé l'organisation interne des églises particulières.
Bien outillés, les participants à cette formation venus des différentes paroisses du diocèse sont désormais prêts à partager à leur tour ce qu'ils ont appris, à rassurer un participant. Gustave Wam, Dapan pour Radio Vatican.
Une chapelle profanée par un inconnu dans le diocèse de Bassankusu en République démocratique du Congo a été réouverte afin de permettre aux fidèles de reprendre leurs activités, suivant le compte rendu de notre correspondant.
Au diocèse de Bassankusu, dans la province de l'Équateur, la chapelle de la communauté ecclésiale vivante de base, Bethany, du secteur pastoral et Likia de la paroisse Sacré-Cœur de Baringa, a rouvert le dimanche 16 janvier et les fidèles qui priaient sous un arbre depuis le 16 mars 2021, soit 9 mois, ont eu la joie de retrouver leur lieu de culte. L'évêque de Bassankusu, Mgr Joseph Makobe, a dépêché M. l'abbé Robert Effolé, vicaire judiciaire, pour bénir et rouvrir la chapelle. « Prenez soin de votre chapelle et protégez votre lieu de culte », a recommandé M. l'abbé Effolé aux fidèles. Le curé de la paroisse Sacré-Cœur de Baringa, M. l'abbé Laurent Essia Kongo, a dit pourquoi l'évêque de Bassankusu avait fermé cette chapelle voilà 9 mois. Un inconnu s'était introduit de nuit dans la chapelle et avait emporté la croix, la nappe de l'autel et le linge sur le litrain notamment.
Après plusieurs enquêtes, nous avons découvert que c'était une folle qui, pour se mettre à l'abri après une grande pluie qui s'est abattue ce jour-là, il s'était introduit à la chapelle. L'évêque avait décidé qu'on ferme la chapelle.
Jean-Baptiste Malengue, Kalunzu pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Le gouvernement du Burkina Faso affirme que l'armée n'a pas pris le contrôle du pays dimanche après que des échanges de tirs ont eu lieu dans plusieurs casernes de l'armée, dont deux dans la capitale Ouagadougou. Olivier Bonnel.
Dès 1h du matin, des tirs ont été entendus dans le camp de Sangoulé-Lamizana. Des tirs ont également été entendus dans un autre camp militaire de Ouagadougou, celui de Babassi, à la sortie sud de la capitale et à la base aérienne proche de l'aéroport. Des coups de feu se sont également produits dans des casernes de Kaya et Waïgouya dans le nord du pays. Très vite, les informations relayées sur les réseaux sociaux ont évoqué une prise de pouvoir par l'armée, information formellement démentie par le porte-parole du gouvernement Alakassoum Maïga, qui a appelé les populations à rester sereines. Nous voulons des moyens adaptés à la lutte anti-djihadiste et des effectifs conséquents, ainsi que le remplacement des plus hauts gradés de l'armée nationale, a-t-on pu entendre dans un enregistrement sous couvert de l'anonymat. Les militaires en colère demandent aussi une revalorisation de leurs primes. Ces fusillades surviennent au lendemain d'affrontements entre la police et des manifestants lors de protestations contre l'incapacité des autorités à endiguer la violence qui ravage le Burkina, un pays qui a une longue histoire de coups d'État.
Olivier Bonnel. Allant au Mali, le camp français de Barkhane à Gao, dans le nord du pays, a été ciblé par des tirs de mortier samedi après-midi. Cette attaque survient alors que la réorganisation de la présence militaire française au Mali est en cours, avec la fin programmée de l'opération Barkhane au terme de près de 9 ans de présence au Sahel. Le colonel Mamadi Doumbouya, chef de la junte au pouvoir en Guinée, a nommé samedi les 81 membres du Conseil national de transition, le CNT, organe législatif de transition, devant décider de la date du retour des civils au pouvoir. Le médecin Danso Kourouma, un activiste de la société civile, assurera la présidence de cet organe, lui qui était jusqu'ici président du Conseil national des organisations de la société civile. Plusieurs milliers de Tchadiens s'étaient rassemblés samedi dans un stade d'N'Djamena en soutien à la junte militaire qui veut presser le pas pour ouvrir un dialogue national avec l'opposition et la rébellion 9 mois après la mort du président Idriss Déby. Le public répondait à l'appel du mouvement national pour le changement au Tchad, parti de l'ex-opposant au défunt chef de l'État, Mahamat Amat Lazina, rallié à la junte qu'il a nommé ministre de l'Environnement.
Radio Vatican, France-Afrique, Donatien Nembo.
Le Malawi a révoqué samedi le statut de 8 diplomates qui refusent de quitter les États-Unis dans le cadre d'un bras de fer portant sur l'expédition à domicile de leurs effets personnels. Les 8 diplomates en poste à Washington et à New York n'ont pas réussi à empêcher via un recours en justice le gouvernement de mettre en œuvre leur appel. Selon la porte-parole, le gouvernement ne faisait que finaliser un projet de rappel initié après l'élection de Lazarus Chakwera à la présidence en 2020, la plupart des envoyés ayant été nommés par son prédécesseur Pete Mutharika. Avant de refermer cette page de l'actualité sociopolitique, parlons de l'opposant congolais Guy Brice Parfait Kolelas qui a été inhumé en France 10 mois après sa mort en mars 2021 alors qu'il était candidat à l'élection présidentielle. L'annonce a été faite par Madame Lydie Kolela, sœur du disparu. Faisons à présent place au père jésuite Martin Vahati qui continue de nous présenter l'encyclique du pape François Fratelli Tutti.
Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui dans la lecture méditative de la lettre encyclique Fratelli Tutti du Saint-Père François sur la fraternité et l'amitié sociale, nous entamons le 7e et avant-dernier chapitre intitulé « Des parcours pour se retrouver ». Ce chapitre est subdivisé à 5 points essentiels. 1. Repartir de la vérité. 2. Architecture et artisanat de la paix. 3. La valeur et le sens du pardon. 4. La mémoire. Et 5. La guerre et la peine de mort. Le pape commence en affirmant qu'en bien d'endroits dans le monde, des parcours de paix qui conduisent à la cicatrisation des blessures sont nécessaires. Et pour cela, préconise le pontife, il faut des artisans de paix disposés à élaborer avec intelligence et audace des processus pour guérir et pour se retrouver. Parlant effectivement du premier point, c'est-à-dire repartir de la vérité, le pape François clarifie aussitôt le sens de se retrouver. Il écrit à ce propos, je cite, se retrouver ne signifie pas retourner à un moment antérieur au conflit. Nous avons tous changé avec le temps. La souffrance et les affrontements nous ont transformés. Fin de citation. Par ailleurs, écrit-il, il n'y a plus de place pour les diplomaties vides, pour les faux semblants, pour les doubles langages, pour les dissimulations, les bonnes manières qui cachent la réalité. Selon l'encyclique Fratelli Tutti, ceux qui se sont durement affrontés doivent dialoguer à partir de la vérité claire et nue. Ils ont besoin d'apprendre à cultiver la mémoire pénitentielle, capable d'assumer le passé pour libérer l'avenir de ses insatisfactions, confusions et projections. Ce n'est qu'à partir de la vérité historique des faits, assure le pape, qu'ils pourront faire l'effort persévérant et prolongé de se comprendre mutuellement et de tenter une nouvelle synthèse pour le bien de tous. Toujours selon Fratelli Tutti, la réalité c'est que le processus de paix est un engagement qui dure dans le temps. C'est un travail patient de recherche de la vérité et de la justice qui honore la mémoire des victimes et qui ouvre pas à pas, à une espérance commune plus forte que la vengeance. Et le pape de citer les évêques du Congo qui ont écrit au sujet d'un conflit perpétuel dans leur pays. Il écrit « Des accords de paix sur le papier ne suffiront pas. Il faudra aller plus loin en intégrant l'exigence de vérité sur les origines de cette crise récurrente. Le peuple a le droit de savoir ce qui s'est passé. » Fin de citation. Le pape François termine ce premier point avec ces mots très forts. La vérité est une campagne indissociable de la justice et de la miséricorde. Toutes les trois sont essentielles pour construire la paix et d'autre part, chacune d'elles empêche que les autres soient altérées. La violence engendre la violence, la haine engendre plus de haine et la mort plus de mort. Et le pape est de préconiser que nous devons briser cette chaîne qui paraît inéluctable.
Après cette présentation de Fratelli Tutti avec le père Bahati, suivons le magazine de la femme que nous présente Marie-Josée Mwando Bouaboualo.
Le magazine sur l'engagement de la femme au sein de l'Église et dans la société concerne la Journée internationale du sport féminin qui se célèbre lundi 24 janvier. L'objectif de cette journée est d'apporter plus de visibilité au sport féminin, de contribuer à une meilleure représentation dans les médias, de développer la pratique féminine du sport, de renforcer la présence des femmes dans les instances dirigeantes sportives et d'améliorer l'économie du sport féminin. Face à une médiatisation plus faible, écart de salaire, statut professionnel différent, il reste encore bien des progrès à faire dans le sport pour atteindre une égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Les femmes ont remporté quelques belles victoires dans la médiatisation de leur sport, comme la Coupe du monde du football féminin en 2019. Toutefois, il reste encore bien du chemin à parcourir, notamment dans la professionnalisation de la pratique. Depuis le lancement de cette initiative en 2014, de plus en plus de temps est consacré au sport féminin dans les médias. Le succès de la Coupe du monde féminine de football 2019 témoigne également de cette amélioration de la visibilité du sport féminin. Selon Maria Vieira da Silva, ambassadrice de bonne volonté d'ONU Femmes, le sport a le pouvoir de changer des vies. En enseignant aux femmes et aux filles le travail d'équipe, l'autonomie, la résilience et la confiance en soi, le sport est l'un des principaux moteurs de l'égalité des sexes. Les femmes dans le sport bravent les stéréotypes de genre et les normes sociales. Elles offrent des exemples à suivre et font apparaître les hommes et les femmes de manière égale. L'ONU Femmes appelle à agir pour remédier à des problèmes tels que l'inégalité salariale, la violence basée sur le genre et le manque d'investissement ciblé qui permettrait à davantage de femmes et de filles de faire carrière dans le sport. Les filles acquièrent des compétences essentielles tout en pratiquant un sport. Si le monde lutte actuellement contre la pandémie de COVID-19 et œuvre pour la relance, les femmes et les jeunes filles doivent non seulement participer à ce processus, mais aussi en devenir les leaders pour que leurs acquis ne soient pas perdus et qu'un meilleur avenir pour toutes soit une réalité.
Merci à Marie-Josée. Nous poursuivons notre programme avec la revue de presse catholique africaine. Françoise Niamien.
Colloque international sur le 10e anniversaire de l'exhortation apostolique Africae Monos du pape Benoît XVI sépare ce titre de la semaine africaine dans son édition du jeudi 20 janvier que nous ouvrons ce nouveau numéro de notre revue de presse catholique africaine. Organisé via Zoom par le Centre de recherche interdisciplinaire sur l'Afrique, le colloque international sur le 10e anniversaire de l'exhortation apostolique post-synodale Africae Monos du pape Benoît XVI est l'aboutissement du projet porté par Fabrice Onzemi, doctorant à la faculté de théologie de Lugano en Suisse, qui, en 2013, avait déjà publié un ouvrage intitulé « Lecture d'Africae Monos du pape Benoît XVI, élément d'une théologie prophétique en Afrique, peut-on lire dans l'hebdomadaire congolais ». Placé sous le sceau de l'interdisciplinarité, poursuit la semaine africaine, ce colloque qui s'est déroulé en ligne a réuni des théologiens, des biblistes, des philosophes, des historiens, des sociologues, des acteurs de la société civile, des juristes et d'autres participants intéressés par les problématiques de l'engagement de l'Église dans les sociétés africaines. Le journal note également la présence du cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque de Ouagadougou et président du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, qui a, peut-on lire, exprimé sa joie et saluer l'initiative de l'organisation de ce colloque au nom des Églises d'Afrique. Malawi. L'épiscopat félicite le bureau anticorruption, c'est ce qu'affichait la online newsletter de la Croix Africa dans son édition du vendredi 21 janvier 2022. Dans un message publié mercredi 19 janvier, écrit la Croix Africa, la conférence des évêques du Malawi a réagi à l'arrestation de hauts responsables du pays ces derniers mois dans le cadre de la lutte contre la corruption. Elle salue une lutte sans précédent et invite le chef de l'État à assurer la protection des agents du bureau anticorruption. Nous applaudissons et soutenons sincèrement les efforts du bureau de lutte contre la corruption et de sa directrice générale, Madame Martha Chizumba, pour leur courage, leur professionnalisme et leur détermination dans la lutte contre la corruption, en particulier comme ils l'ont fait au cours des 6 derniers mois, rapporte la Croix Africa, citant la conférence des évêques du Malawi.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Mesdames et messieurs, amis auditeurs, c'est ici que s'achève cette édition de notre programme que Donatien Niembo a eu le plaisir de vous présenter. Et merci de l'avoir suivi avec attention. Le prochain rendez-vous, c'est demain, même heure, même fréquence, même radio.
Ma vie, c'est le Christ et son évangile. Je veux être à lui. Être son ami, je lui donne ma vie, tout ce que je suis, car il m'a aimé et m'a racheté. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi, oh, quelle joie, d'être toujours à toi. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi, oh, quelle joie, d'être toujours à toi.